Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui, eh bien nous sommes avec Denis Martin Chabot. Bonjour Denis Martin.
Salut, ça va toi?
Pour ceux qui connaissent, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble. Il vient là comme chroniqueur pour une chronique qui s'appelle Planète Arc-en-Ciel.
Tout à fait.
Voilà. Alors on en parle dans un instant. Il faut savoir qu'en deuxième partie d'émission, on va recevoir Daniel Brière et Alexis Martin pour nous parler de la pièce de théâtre Les Morts. Toute une histoire, donc restez avec nous jusqu'à la fin. Pour l'instant, on va partir en musique avant de te retrouver, Denis Martin. On va écouter les fils du facteur qui nous chantent « Danser sous la pluie ».
Bien sûr, tu t'es encore trompé et tu redémarres à zéro comme tu l'as déjà fait 100 fois. Bien sûr, tu cherches à t'accrocher, mais plus le temps passe et moins tu trouves justement t'accrocher à quoi. Bien sûr qu'avant t'avais des rêves et la croix que t'as fait dessus, tu l'amènes à ton Golgotha. Et bien sûr, tous les jours, t'en crèves de compromis en frustration, tu t'es mis dans un sale état. Tu peux prier bêtement pour que passe l'orage et ressasser tes doutes jusqu'au bout de ta vie. C'est un truc que t'oublies, mais plus tu prends de l'âge, quand tu passes plus entre les gouttes, faut juste danser sous la pluie. Bien sûr, ta moitié s'est barrée, t'es tout seul avec l'impression que le meilleur est derrière toi. Bien sûr, l'amour ça fait pleurer, et une fois la rose effeuillée, on a des épines plein les doigts. Tu peux prier bêtement pour que passe l'orage et ressasser tes doutes jusqu'au bout de ta vie. C'est un truc que t'oublies, mais plus tu prends de l'âge, quand tu passes plus entre les gouttes, faut juste danser sous la pluie. C'est un deuil constant, les larmes ont peu de temps pour sécher. Bien sûr, ce qui tue part en plus fort, tu partiras donc en dernier, tout vieux, tout seul et tout fripé. Tu peux prier bêtement pour que passe l'orage et ressasser tes doutes jusqu'au bout de ta vie. Tu peux prier bêtement pour que passe l'orage et ressasser tes doutes jusqu'au bout de ta vie. Faut juste danser sous la pluie.
Alors, Denis Martin, dans ta chronique aujourd'hui, on va parler de la fierté.
Et non pas enfin, de la danse,
envie,
non, pas de la danse
dire,
ou la fierté.
J'ai envie de dire un petit peu aussi, comme en France, parce que ça se dit plus les fiertés.
Oui, et puis il y a une façon différente de voir les choses, puis je trouve ça intéressant pour une fois qu'on aura on a une discussion où on va voir nos différents culturels entre
oui,
la France et le Québec.
C'est vrai.
Alors, et en fait, pour, je vais te faire plaisir, je suis peut-être plus d'accord avec les Français qu'avec les Québécois là-dessus. Pourquoi on dit les fiertés en France? Parce qu'il y a plus d'une communauté dans nos diversités, des orientations sexuelles et des affirmations de genre.
Oui.
Alors, on parle de la marche des fiertés. Alors, pour moi, je suis d'accord avec ça, ce sont des fiertés. C'est une façon de plus de reconnaître qu'il y a une diversité dans nos mouvements des fiertés.
C'est ça.
Mais on peut dire aussi la fierté comme au Québec. Et l'argument ici qu'on va dire, c'est que c'est une émotion, c'est un sentiment.
On est fier, quoi.
Qui est partagé, oui, et c'est par ça. Solidarité qu'on le fait, qu'on parle donc d'une fierté. C'est un mouvement. Alors,
tout à fait, les deux sont valables.
C'est matière à discussion, mais moi j'ai un petit penchant pour les fiertés, et toi?
Écoute, les deux sont valables, parce que c'est vrai que vu du point du sentiment, on a la fierté de le faire, c'est comme un lien qui est créé entre tous, oui. Il y a ça aussi. Alors, je balance, moi. Bon. Entre les deux. Ah, mon cœur balance entre les deux.
Moi, je suis avec le pluriel, mais bon, voilà. Mais j'aime l'amour à plusieurs, faut dire.
Ah ben voilà, ça commence.
Ça commence déjà.
Ça commence déjà.
Ça fait quoi, 30 secondes, non, 40 secondes que je te parle, donc déjà eu un petit sous-entendu.
Alors, oui, parlons de Fierté Montréal. Oui. Alors, Fierté Montréal, parce qu'il y a du nouveau à Fierté Montréal. Il y a même un nouveau directeur général.
Oui, oui, tout à fait. Il s'appelle Simon Gamache. Et puis, c'est un homme vraiment qui a une feuille de route plus qu'impressionnante. On parle ici d'un professionnel respecté du secteur des arts. Simon Gamache contribue depuis plus de 15 ans à l'avancement d'un écosystème culturel toujours plus résilient, inclusif et durable. Et Dieu sait qu'il a été très sollicité depuis 2 ans avec, oui, la COVID. Hein? Mmh. Alors, son parcours de gestionnaire, il a été à Umusici de Montréal, au BAM Center for Arts and Creativity. Il était aussi à Analecta, excusez-moi, j'avais de la difficulté à lire avec mes lunettes, là. Alors, il a notamment amené à mobiliser des équipes multidisciplinaires. Il a développé des partenariats institutionnels et financiers. Il a stimulé la création artistique, administré des centaines de productions et d'événements. Donc, vraiment quelqu'un qui arrive avec tout un bagage.
Hein?
Alors, gérer la production de contenu multiplateforme tout en participant au développement stratégique des organisations. Alors, il arrive vraiment pas les mains vides à Fierté Montréal et je vous propose d'écouter un peu ce qu'il avait à
dire. L'entrevue que tu as fait avec lui. Alors, allons-y. Premier morceau.
Oui, j'ai commencé comme musicien, donc c'est parti de là. Donc, j'ai commencé à faire de la pige comme musicien très jeune dans l'adolescence. Puis, au fur et à mesure, carrière qui a cheminé, éventuellement, je me suis retrouvé dans le monde de l'enregistrement puis de l'administration artistique. Donc, Si on compte tout ça, là, si on compte dès que j'ai commencé à jouer professionnellement, mon premier chèque de paye, ça fait 25 ans dans le secteur culturel. Donc, ouais.
Si tu arrives avec une feuille de route aussi impressionnante, ben, ça devrait être très utile, considérant que les deux dernières années ont été passablement difficiles pour Fierté Montréal. Alors, c'est un défi qui t'attend.
Ouais, un grand puis un beau défi. Tu sais, il y a des choses qui vont, on s'entend que fondamentalement, il y a des choses qui vont quand même bien. C'est une chose qui est impressionnante. Malgré la pandémie, Fierté Montréal a livré 2 éditions. Il n'y a pas beaucoup d'organismes qui ont réussi à livrer des festivals, des événements. Puis, fait qu'il y a beaucoup de créativité dans le bureau. Tout le monde s'est dépassé, tout le monde s'est défoncé, peut-être un petit peu trop. Ça a été particulièrement intense. Il y a eu des personnes qu'on a perdues peut-être au combat. Mais c'est ça. Moi, j'arrive, puis j'ai devant moi un CA qui est peut-être un peu petit présentement, mais qui est très mobilisé pour la mission de l'organisme. J'ai une équipe qui aussi est plus petite qu'elle a déjà été. Donc, il y a des belles opportunités pour moi par rapport à ça, mais j'ai une équipe qui est mobilisée, puis aussi qui est très créative. C'est vraiment ma découverte depuis que je suis entré en poste, voir qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de diversité d'opinions dans le bureau. J'aime beaucoup ça. C'est quelque chose qu'on veut maintenir, mais c'est ça. Puis, c'est ça, vraiment, c'est ça. Il y a des frictions créatives, puis je veux vraiment me servir de ça. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est dans le processus d'entrevue avec le CA, puis après ça, bien, en rencontrant les employés, c'est que les gens sont mobilisés. T'sais, ils croient à l'organisation, puis ils veulent vraiment aller de l'avant. Ouais, ça a été dur. On a passé un bout dur là, l'été dernier, mais les gens veulent vraiment avancer. On n'est pas en train d'oublier le passé, c'est pas ça du tout. Mais puis c'est ça. Puis aussi, c'est la COVID, on a appris beaucoup de choses avec ça. T'sais, il y a une programmation virtuelle, une programmation hybride qui a été faite. On a rejoint des gens qu'on n'avait jamais rejoints dans le passé, qui peut-être ne se sentaient pas à l'aise de venir physiquement à Fierté Montréal. Donc, tu sais, il y a quelque chose à retenir là-dedans. Puis Fierté Montréal, toutes les fiertés, oui, ce sont des d'abord et avant tout des événements. Ça va être des événements festifs, on célèbre, revendicateurs. Ça demeure selon différentes composantes là, dans tout ce qu'on fait. Mais c'est ça, il y a une notion d'accueil qu'il ne faut pas oublier. Puis je pense que justement, avec la formule hybride, bien, on est peut-être capable d'accueillir plus de gens. Donc, il faut le garder en tête dans les contenus à développer dans le futur.
Alors là, ce qu'on vient d'entendre, Denis Martin, c'est Simon Gamache de Fierté Montréal. On comprend que depuis 2 ans, il a relevé de gros défis, vraiment, puis qui prend les rênes, on va dire, d'un organisme qui a quand même besoin qu'on s'occupe beaucoup de lui, quoi. Ah, beaucoup d'amour, hein?
Certains Montréal a besoin de beaucoup d'amour. Ben, faites comme beaucoup d'organisations. D'abord, je le rappelle, on l'a mentionné dans l'entrevue, la maudite pandémie, on la nommera pas, là, mais la maudite pandémie, ça a eu un impact sur tout le monde. Alors, le milieu artistique en particulier et le milieu des festivals, donc Fierté Montréal. Les troupes de Fierté Montréal ont mis les bouchées doubles. Je le sais, j'ai été impliqué un peu là-dedans indirectement, oui, avec mon festival Fierté littéraire. Il a fallu se réinventer. Puis on a bien vu là, qu'on a tout mobilisé en ligne en 2020, puis en hybride cette année. Puis on se rend compte que probablement que le mode hybride est là pour rester. Parce qu'on
C'est pas mal, hein?
Oui, il y a beaucoup d'organismes qui le disent maintenant. Mm. On se rend compte qu'on rejoint des gens qui ne viendraient pas à nos événements autrement. Puis pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent, il y a des gens qui ne sont pas prêts à sortir du placard et d'être vus dans des événements gays. D'autres ont des problèmes de mobilité, des enjeux de sécurité, voilà. Alors, ça veut dire aussi que depuis 2 ans, on n'a pas vraiment fait venir d'artistes internationaux. Il n'y a pas de touristes internationaux, donc baisse de revenus. C'est clair là que les annonceurs étaient moins au rendez-vous.
Alors,
en même temps, Simon ne le mentionne pas dans l'entrevue, mais on le sait, c'est l'éléphant dans la pièce. Et on sait qu'il y a eu le renvoi du président de Fierté Montréal, qui était aussi directeur général, Éric Pinault. C'est arrivé en 2020. Et il y a eu des démissions en bloc qui ont suivi, tant chez le personnel qu'au conseil d'administration. Donc, c'est vraiment pas facile, mais l'organisme se relève de tout ça.
Oui, je comprends. Mais là, tous les défis, là, ça se multiplie parce qu'il y a quand même plusieurs fiertés, puisqu'on parle de plusieurs fiertés. Il y a toute une diversité d'orientation sexuelle dont on parlait beaucoup moins avant, puis qui maintenant...
Et d'affirmation de genre aussi.
Voilà,
oui.
D'affirmation de genre qui s'affirment un petit peu plus aujourd'hui, quoi, qui réclament leur place au sein du mouvement auquel ils ont droit. Et il y a des fiertés dans le monde... qui n'ont pas toutes été capables d'entendre ça. Hein. Il semblerait que Boston, ça a été difficile.
Il y a d'autres endroits. C'est l'exemple qui venait en tête quand j'écrivais, quand je préparais cette chronique. Mais oui, il y a eu beaucoup d'endroits où ça a été difficile. Ben, cette dynamique-là, elle existe bel et bien au sein de Fierté Montréal aussi. Il y a des nouvelles... Il y a des orientations sexuelles, il y a des diversités d'affirmations de genre qui sont en train de d'éclore puis qui veulent prendre leur place. Alors ça aussi existait dans le débat, dans la Fierté Montréal. Et si on a le temps, j'ai un autre extrait de
Alors,
Simon.
Alors, on va écouter Simon, mais on va d'abord faire une petite pause musicale, puis on revient avec son extrait et on parle de tout ça après, d'accord?
Tout à fait.
Allez.
L'été s'amène avec toute sa chaleur. C'est à travers tes yeux que je le vois arriver. Une chance de mettre de côté les peurs et de permettre au temps d'un peu mieux avancer. La route s'allonge, mais peut-être pour le mieux. C'est dans une courbe un peu raide que je t'ai rencontré. J'ai l'impression depuis que je suis moins vieux. Je me demande parfois si le temps s'est pas arrêté. La route m'appelle, le moteur tourne encore. Et j'ai de moins en moins envie de partir. À tes côtés, le vent devient moins fort. J'ai l'impression d'être arrivé à l'avenir. Parlant plus tard, l'image est un peu floue. On dirait que l'histoire veut plus se raconter. La certitude a baissé un genou. Et les espoirs tardent un peu à la relever. La route m'appelle, le moteur tourne encore. Et j'ai de moins en moins envie de partir. À tes côtés, le vent devient moins fort. J'ai l'impression d'être arrivé à l'avenir. Si les années me donnent la chance encore, j'aimerais peut-être ça te faire visiter. Le grand repère où les craintes sont plus rares. Le lieu où je sais que je peux vraiment exister. Si les années m'en donnent la chance encore, j'aimerais peut-être ça te faire visiter. La grande maison où j'arrive à bon port. Tu pourrais peut-être même être déjà arrivé. Le moteur tourne encore. J'ai de moins en moins envie de partir. l'impression d'être arrivé à l'avenir. La route, ma belle, le moteur tourne encore. Je sais que j'aurai toujours le goût de partir. À tes côtés, je me sens devenir plus fort. Tu pourrais rouler avec moi l'avenir. Tu pourrais rouler avec moi l'avenir.
Alors, on vient d'entendre Dave Armaud qui nous chantait Envie de parler. Et justement, Envie de parler, on va entendre ton second extrait de Simon Gamache, de l'entrevue que tu as fait avec lui. Alors, allons-y.
C'est fondamental. Moi, c'est au cœur de mon action. On pourra en parler peut-être une autre fois, mais tu sais, moi, dans mon parcours depuis une dizaine d'années, en tant que gestionnaire, toutes les questions d'équité, diversité et inclusion sont extrêmement importantes dans ma carrière. J'ai passé une bonne partie de ma carrière à l'extérieur du Québec, donc ailleurs dans le Canada anglais. Donc, moi, je faisais des reconnaissances territoriales il y a 8-9 ans, je faisais ça. Donc, tu sais, il y a tous ces enjeux qui sont importants pour moi. C'est sûr que, comme gestionnaire, j'ai développé des outils par rapport à ça, comment aller à la rencontre. Puis souvent, tu sais, on parle d'abord de diversité, puis c'est fondamental, mais il ne faut pas oublier l'inclusion. Puis l'inclusion, c'est s'assurer, si on a des voix diverses, s'assurer que ces personnes-là sont incluses dans les conversations, qu'on inclut leurs perspectives. Donc, elles se sentent confortable, à l'aise de participer à la conversation. Puis ça, ben, pour atteindre l'équité. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour moi. Là, ce qui est le fun pour moi, c'est que là, Fierté Montréal, c'est bien sûr, c'est les communautés d'ESLGBTQI+. Donc c'est tout ça, avec toutes les intersectionnalités. Donc si on se concentre là-dessus, mais c'est absolument important. Puis je veux juste, avant que tu le soulèves toi-même, c'est je suis un homme gay blanc cis. Et moi, j'ai une responsabilité en tant qu'homme blanc de vraiment prioriser, de mettre de l'avant toutes les questions de diversité et d'inclusion. Mais c'est ça. Mais ça peut paraître très technique, mais j'ai des habiletés de gestionnaire, des sensibilités, des engagements personnels par rapport à tout ça. Donc, c'est fondamental pour moi dans tout ce qu'on va faire dans les prochaines années.
Juste avant que tu poses la question, oui. Annette, deux choses que je vais mettre au clair. Jamais, au grand jamais, je pose cette question-là à quelqu'un.
Oui.
Savoir comment tu t'identifies, surtout dans une entrevue. Oui, ça n'a pas de bon sens de faire
mais
ça.
Mais il a voulu le faire, c'est lui qui a pris
l'autre chose, parce qu'on se soulignait hors antenne tout à l'heure, puis j'ai oublié de vous le dire, vous savez qu'on travaille depuis un an et demi en pandémie de la maison. C'est vraiment pas facile. C'est une entrevue que j'ai faite par Zoom. Il suffit qu'il y ait une mauvaise connexion Internet ou qu'il y ait un petit bruit de fond quelque part chez les gens, puis ça donne ce que ça donne. Mais bon, on a appris à vivre avec ces petits ennuis-là.
C'est ça. Alors, justement, dans ce qu'il disait, il y a des débats. Et un autre débat, c'est celui de... qui n'est pas d'ailleurs que sur Montréal, c'est celui du volet communautaire, revendicateur et politique de fierté versus son volet festif et commercial.
Ça, c'est un débat qui perdure et qui revient à Fierté Montréal depuis 30 ans, comme dans toutes les fiertés. Alors, juste pour faire un petit rappel, le mouvement des fiertés, tu vois, je dis des fiertés, vient des fameuses émeutes de Stonewall à New York en 1969. Alors, à la suite de ces attaques policières, la répression policière contre les communautés de la diversité des orientations sexuelles et des affirmations de genre, ça c'était dans la nuit du 27 au 28 juin 69, bien, il y a des militants qui sont réunis pour trouver une façon de commémorer cet événement marquant de l'émancipation des personnes de cette diversité. Ça a été un an plus tard, donc le 27 juin 1970, la première Pride, ça c'est l'autre façon que les Français parlent des fiertés. fort que moi, il fallait que je le dise. Alors, la première Pride a eu lieu où, tu crois? À New York? Non. À Chicago. Et c'était suivi par une autre à San Francisco. Et c'était le lendemain, donc le 27 juin, qu'il y a eu ces rassemblements à New York. Et puis, on appelait ça à l'époque la Christopher Street Liberation Day. Et il y a eu ça aussi à Los Angeles.
Alors, l'origine du mouvement est politique, revendicateur et communautaire.
Oui, mais en même temps, comme dans bien des choses, le nerf de la guerre, c'est le financement.
Ah ben oui, devine.
Ah, il y en a chien, t'en as le tas. Alors, les organisations des fiertés du monde ont été approchées par des grandes marques, des entreprises qui voulaient, parce que là, ça devenait de plus en plus correct et normal d'avoir une orientation sexuelle différente, donc voulaient profiter de l'impact politique positif que ça pouvait faire d'investir dans les fiertés et ont apposé leur nom. On a vu Viagra, on a vu les marques de bière partout et à Canada qui s'affichent donc lors des activités. Alors, c'est un aspect commercial qui... Bon, ça prend de l'argent et ça permet d'avoir des événements gratuits, mais en même temps, il faut aussi avoir l'impact visuel et aussi l'impact parfois dans la programmation, parce qu'il y a certaines choses que les grandes marques ne veulent pas être associées, avec lesquelles elles ne veulent pas être associées. Alors, c'est toujours un espèce de
ouais,
débat.
Oui, mais en même temps, est-ce que c'est pas, ça dilue pas un peu l'importance de la fierté d'avoir un...
Ben moi je suis un petit peu mal à l'aise là-dedans parce que les événements que j'organise pendant la fierté ont été financés en grande partie par la Banque TD et par Fido. Alors, je ne commencerai pas non plus à mordre la main qui
d'accord,
me nourrit, n'est-ce pas?
D'accord. Alors, il n'y a que moi qui le dis parce que ça ne me coûte rien.
Mais
de
effectivement,
le dire.
Ça pose problème. Alors, je ne sais pas si on a le temps.
On a le temps de mettre le troisième extrait.
Oui, parce que Simon en parle de ça, on va l'écouter.
Oui, mais regarde, moi, j'y pense depuis que j'y pensé tout l'été pendant tout le processus de recrutement. Donc, c'est pas, je veux pas trop mouiller, mais en même temps, l'aspect communautaire est fondamental. Tu sais, je pense qu'on s'entend qu'à la base, les fiertés, c'est quoi l'élément fondamental dans les fiertés? C'est la marche, c'est l'aspect revendication. Donc, la marche qui a eu cet été a eu beaucoup de succès. Nous, on veut voir comment qu'on maintient ça, tout en ayant l'aspect sexiste, mais une marche inclusive. Et l'aspect communautaire aussi important. On a les journées communautaires. Ce que je peux dire, c'est que présentement, je vois certains silos. C'est comme on fait la marche, on fait les journées communautaires, on fait le festival. Moi, j'ai un gros passé de programmation. Donc, moi, je veux vraiment qu'on développe des vases communicants entre ces trois éléments-là, pour que ce soit un tout cohérent. Donc, c'est très théorique ce que je te dis, là. Mais c'est vraiment fondamental. Déjà, l'équipe ici m'ont déjà donné des post-mortem pour. J'ai lu un paquet de post-mortem depuis que je suis rentré en poste sur les différents éléments de programmation. Mais moi, en formant l'équipe dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, ça va être vraiment ça. C'est d'intégrer tout ça. Parce que c'est ça, c'est Fierté Montréal, oui, a plus de moyens que d'autres organisations. Puis je pense que c'est tant mieux, mais il faut vraiment que nos communautés en profitent et voir comment on va faire ça. Là, présentement, déjà, on est en train de planifier des rencontres avec nos partenaires communautaires. Il y en a déjà quelques-unes de planifier, mais on va continuer à rencontrer les gens dans les prochaines semaines, prochains mois.
Ben écoute, voilà. C'était très intéressant de l'entendre, en tout cas, d'avoir son avis là-dessus.
Ouais, et puis, vraiment, toute la diversité qui vient avec tout ça. Écoute, moi, je suis une personne qui croit que la fierté ou les fiertés, c'est très important encore en 2021.
Bien sûr. Parce qu'il
y a encore des gens qui se... Il y a encore des jeunes hommes gays, des jeunes femmes gays, des jeunes hommes, des jeunes femmes, des jeunes personnes non-binaires qui se suicident encore à cause de leur orientation ou de leur diversité des affirmations de genre. D'avoir un modèle une fois dans l'année, pendant l'été, de pouvoir célébrer qui nous sommes. Alors, moi, tu vois, le côté festif des fiertés, je l'aime. J'aime la célébration, célébrer qui nous sommes.
Oui.
Célébrer qu'on est heureux, on est bien, on est beau, on s'aime et on n'a pas honte de qui nous sommes. C'est important, tout ça.
C'est vrai. Et puis, c'est important aussi que d'autres qui n'approchent pas assez la communauté sachent un petit peu comment c'est au lieu d'avoir peur de l'inconnu. Comme je le répète tout le temps, on a toujours peur de ce qu'on ignore. Donc, moins on ignore, et ben moins on a peur. Normalement, ça devrait être comme ça.
Puis rapidement, tu sais que la fierté, c'est aussi un événement où il y a beaucoup d'hétérosexuels qui viennent.
Oui.
Alors, voilà.
Oui, c'est vrai. La preuve, j'y vais.
Alors, t'es hétéro, toi.
On y assistait, oui. Moi aussi, je suis comme toi, j'aime les hommes. Alors, en même temps, on va partir avec Ariane Moffat qui nous chante « Je veux tout ».
Je veux tout, toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie, sur les cœurs. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, l'image claire et la floue, sur mes sentiments illimités. Je travaille pour l'amour sans rendez-vous. Je veux voler sans me faire attraper. Sèche et que je craque. Je veux tout, le silence et les promesses, le rigide et la souplesse. Je veux tout, l'anarchie et la sagesse, ton sourire et puis tes fesses. Je veux tout, toi et tous tes amis, pour tracer mes jours et mes nuits. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, tout de suite et ici.
Voilà, on vient d'entendre Ariane Moffat qui nous chantait « Je veux tout », nous aussi. Donc, c'est déjà ça. Alors, dans la prochaine demi-heure, eh bien, écoutez, restez avec nous. Daniel Brière et Alexis Martin seront là pour nous parler de la pièce de théâtre « Les morts ». C'est le nouveau théâtre expérimental qui présente depuis le 12 octobre, d'ailleurs, à l'Espace Libre, cette pièce d'une idée originale d'Alexis Martin et de Daniel Brière. Et Daniel Brière fait la mise en scène et Alexis Martin est seul sur scène. Et ils sont là dans un instant pour nous en parler. Donc, c'est une pièce qui est du 12 octobre au 6 novembre. Alors, restez avec nous. Vous allez en apprendre, comme nous d'ailleurs. À tout de suite.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah.
Écoutez mon histoire, vous autres qui voyagez, toujours dans la mémoire, ayez l'éternité. La mort peut apparaître sans que vous l'attendiez. Avec sa main de traître, elle viendra vous chercher.
C'était au mois d'octobre, pas loin de Saint-Mathieu. Selon ma vie bien sombre, je devais fermer les yeux. Oh, logique. pris le dîner. Là, je ne m'attendais guère que c'était mon dernier. C'est quand on est plein de vie, quand on est grand et fort, souvent c'est qu'on se fie, qu'on est bien loin de la mort. Voyez comme on se trompe, tout joyeux le midi, me voilà dans ma tombe, au doux coup de minuit, au doux coup de minuit,
Et voilà, on vient d'entendre Fred Pellerin qui nous chantait La Mort. Et chose promise, chose due, eh bien, nous avons avec nous Daniel Brière et Alexis Martin. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Oh, j'aime bien, là, vous êtes en cœur, c'est parfait. Alors, parlons un peu de cette pièce, Les Morts. Donc, on parle un peu de l'histoire. Lequel me raconte
l'argument, disons l'argument, là, si vous voulez, très simple. Un homme en désarroi est dans un moment de sa vie où il est un peu perdu professionnellement, mais émotivement aussi. Il est un peu égaré et il fait une sorte de pèlerinage un peu inconscient. Il se ramasse devant la maison de son enfance. La porte est ouverte, il entre, la maison est abandonnée. Il retrouve la chambre de son enfance et là, dans cette chambre-là, dans une sorte d'état un peu d'auto-hypnose, un état de veille, il se met à voir des fantômes un peu de sa vie. Alors c'est un peu ça l'argument.
Alors en étant quand même étonné, je trouve ça merveilleux comme idée. Mais comment l'idée vous est venue alors qu'on parle de animaux, de bébés, d'ailleurs que j'ai eu grand plaisir à voir sur scène à l'époque. Comment on amène la mort sur scène?
Ben, je peux peut-être répondre. C'est donc le troisième volet de notre trilogie sur la présence en scène. Donc, avec animaux et bébés, on avait expérimenté cette présence extraordinaire qui est celle des animaux.
Fabuleux.
Et des bébés sur la scène. Hein. On nous dit souvent comme acteur, évitez de jouer avec des animaux ou des enfants ou des bébés parce qu'ils vont vous voler la vedette. C'est sûr,
oui, c'était génial.
Donc, on cherchait quelle serait la nouvelle présence après les bébés et les animaux. Quelle serait cette présence mystérieuse et forte aussi? Et Alexis est arrivé avec l'idée des morts. Donc, de ramener les esprits, les fantômes, ce qu'on fait parfois au théâtre aussi. Mais là, on s'est dit, ben tiens, explorons, allons au bout de cette démarche-là. Et puis, essayons de ramener ces êtres qui nous hantent et qui sont autour de nous, qui nous habitent.
Alors, de quelle manière? Parce que sur une scène de théâtre, ça va avec quoi? Avec des jeux de lumière? Avec des ombres? Avec des choses comme ça? Ou c'est
oui,
seulement dans la voix?
En partie, on a utilisé des moyens assez simples, des moyens de technologie qu'on a à notre disposition au théâtre pour créer une petite magie. Essayer de faire sentir cette présence-là. Mais parfois, les effets les plus simples, au fond, sont les plus efficaces.
Oui.
Hein, parce que Alexis parlait de la chambre et on a tous vécu ce moment où entre le sommeil et l'état de veille, on perçoit des ombres étranges, on entend des sons étranges, notre imaginaire s'emballe un peu et puis on se demande s'il n'y a pas la présence de quelqu'un ou d'un fantôme. Je pense que ça nous est tous arrivé.
Oui, puis là, on regarde en dessous
du
lit.
Ça m'est arrivé. Alors, c'est un peu ça qu'on a essayé de reproduire.
Ben, Moi, j'y crois. Enfin, je crois à ça, mais ce que je crois dans les morts, c'est non pas les ombres qui reviennent, mais plutôt l'impact qui fait la façon dont on peut réagir quand on parle du lien, du souvenir, de la façon dont on a été élevé. Les gens sont partis et puis ils ont laissé comme leur empreinte sur nous, sur nos réactions de vie.
Mais moi, au fond, ma thèse, au fond, c'est que le dialogue se poursuit toute notre vie. En fait, c'est-à-dire que les gens présents ou disparus, ceux qui nous ont vraiment marqués, nous ont laissé assez de matière pour qu'on puisse continuer à parler avec eux jusqu'à ce qu'on disparaisse nous-mêmes. C'est ça un peu la thèse. Et je pense que dans les grands récits mythiques, on a ça. Hein? C'est Ulysse qui descend aux enfers, qui parle avec sa mère. On a ça dans toutes les mythologies, dans toutes les cultures. C'est-à-dire ce dialogue avec les morts, au fond, il nous accompagne, il est important, il est structurant. Et dans les moments de grande déconvenue ou les moments d'errance, on se tourne beaucoup, je pense, en tout cas, vers les fantômes, les voix qui se sont tues, qui tout à coup sont ranimées, hein, avec une part d'imagination, mais une part de mémoire concrète aussi. Et c'est ce que met en scène un peu le spectacle, je crois.
Alors, quel...
Donc, oui. Non, je vous en prie.
Alexis, comment ça c'est de jouer tout seul face à... en ayant comme repère que les voix des ancêtres, si on peut dire ça comme ça.
C'est particulier. C'est-à-dire que c'est toujours un peu intimidant d'être seul sur scène, parce qu'on est plutôt dressé comme acteur à travailler en équipe, à s'appuyer les uns sur les autres. C'est ça le principe des répliques, du dialogue. Donc l'autre nous rend vivants par sa présence, par le rebond, hein, le fait que ce soit un miroir de nous sur scène aussi. Là, on est seul, je suis seul, c'est comme tous les gens qui font des monologues peuvent en témoigner, il y a une sorte de petit vertige, là, parce que on ne compte que sur soi, mais en même temps, Daniel et puis toute l'équipe de concepteurs ont créé une sorte d'écrin sur lequel j'ai trouvé plein d'appui. Par la lumière, par la voix enregistrée, par la musique. Et tout à coup, j'arrive à recréer une sorte d'équipe, au fond.
Ah,
mais
oui,
ce sont les spectres, cette fois-ci, qui font équipe avec moi. Une équipe très fiable, parce que comme on est dans l'enregistrement, donc ils sont très fidèles. C'est moi là, qui dois me forcer pour être juste. Voilà.
Et est-ce que c'est votre voix, Alexis, qui est enregistré sur les voix des ancêtres, ou c'est d'autres voix, ou la voix de Daniel?
Non, c'est moi qui fait toutes les voix, et puis par la magie de la technologie, ben, les voix sont traitées, alors c'est un peu toujours moi, mais c'est sans être moi tout à fait. Il y a eu un très beau travail qui a été fait au niveau sonore là-dessus.
Je trouve que ça donne quelque chose de magique, parce que quand on est dans l'espace d'une chambre, je trouve, alors... la manière dont on s'est écrit, dont c'est fait, quand on revient quelque part sur les lieux de son enfance, c'est toujours comme ça, on revoit des endroits et on le revoit avec le recul de toute la vie qui est passée sur nous, et et c'est un nouveau regard qu'on pose sur cet endroit-là.
Oui.
Je trouve ça très beau. Daniel, comment on fait la mise en scène d'une pièce comme ça? Sur quoi il a fallu travailler?
Je me pose toujours la question à chaque fois que je suis face à un nouvel objet, un nouveau texte. J'ai l'impression de recommencer à zéro à chaque fois. Ben, dans ce cas-ci, c'est clair que... il y avait le texte qui était là au départ. Alexis donc a écrit un texte. Et c'est comment arriver à éclairer le plus possible et à rendre ce qui a été imaginé par Alexis le plus limpide possible. Alors, il faut faire attention, il faut être économe, puis à la fois, il faut se permettre une écriture aussi, qui est l'écriture scénique. Alors ça, c'est ma part à moi aussi d'imaginaire, ma part de choix, de décision, et de choisir une équipe aussi. On s'entoure évidemment d'une équipe de concepteurs. Oui. Puis ces concepteurs-là, ben eux aussi, ils apportent beaucoup d'eau au moulin. Alors, c'est un petit peu être responsable d'une équipe et de faire des choix qui vont permettre au texte de grandir et puis il faut essayer d'être juste aussi, pas trahir l'auteur.
C'est ça.
Pas trahir l'ami aussi, parce qu'au-delà de l'auteur, c'est aussi mon ami, mon collègue de travail, il faut que je fasse attention.
Oui.
Moi, j'aime bien la relation aussi entre un metteur en scène et un acteur qui fait un seul en scène, parce que il y a une grande intimité qui s'installe dans les répétitions. Alors, il y a quelque chose, c'est moi son principal partenaire, au fond, c'est moi qui l'observe, c'est moi qui l'ai avec lui au fil des répétitions. Et j'avoue que je trouve ça assez beau, cette relation-là. Ça me plaît quand il y a plusieurs acteurs, quand il y a beaucoup de monde, mais souvent, on est un peu déchiré parce qu'on se demande si on donne assez à tout le monde.
Oui, c'est ça.
Si on est assez généreux envers tout le monde.
C'est vrai.
Tandis que là, c'est comme si on a une personne uniquement à s'occuper. Alors, il s'installe quelque chose de très intime. Moi, ça me plaît beaucoup faire des solos, monter des monologues comme ça.
Puis j'ai vu qu'au Nouveau Théâtre Expérimental, donc il y a vraiment un lien d'équipe chez vous, c'est-à-dire que vous demandez aussi l'avis de tous ceux qui travaillent avec vous.
Ben oui, c'est sûr qu'on aime bien, on ne se prive pas d'une bonne idée.
Alors, ben c'est beau, c'est bien.
Ben voilà, ben oui, puis on aime bien échanger, discuter, puis c'est un processus. Monter un spectacle, c'est aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de... Surtout, ce spectacle-là nous a ramené dans nos souvenirs, et chacun, il va de son histoire, de son passé, et ça nourrit aussi le processus. Puis, évidemment qu'à la fin, il faut qu'on tranche, il faut prendre des décisions. Et en général, c'est le metteur en scène, c'est l'auteur, c'est nous qui devons prendre les décisions finales, mais dans le processus, c'est très, très, très important que tout le monde ait son mot à dire et tout le monde puisse, s'en mêler, finalement.
Oui.
Alors, si je demande à chacun d'entre vous, alors peut-être que ma question est indiscrète, mais quel lien a chacun de vous avec la mort, avec les êtres qui sont partis aujourd'hui?
Ben, je pense honnêtement que c'est le même lien que tous les êtres humains ont avec l'échéance et puis avec leur disparu. J'ai l'impression que l'expérience est assez commune quand même. Hein? Je crois que est partagée. Hein? On est dans une ambivalence parce qu'on sait qu'on va tous mourir. En même temps,
on sait pas quand.
On est attaché à la vie, on sait pas quand. On est plus ou moins inquiet. Puis en même temps, on est témoin des gens autour de nous qui disparaissent. Ça reflète notre propre échéance qui s'en vient. Chaque âge de la vie a une relation très différente avec la mort, je pense.
Oui.
Puis c'est sûr qu'il y a les morts accidentelles, les morts de maladie, les morts de vieillage, c'est pas la même chose. Donc il y a une infinie variété aussi, peut-être. Mais je pense que quand même, tous les êtres humains sont un peu dans le même bateau. C'est ce qui fait qu'on est des êtres humains, justement, c'est qu'on a ça en commun.
Oui, aussi. Peut-être qu'on sent plus... Plus on perd de monde autour de nous, peut-être plus on a conscience de la vie.
Oui, bien sûr. Puis de la fragilité.
Hein? Oui. On se rend compte que la vie, ça ne tient pas à grand-chose parfois.
C'est vrai.
Et c'est souvent... Moi, pour le dire, parce que j'arrive à un âge où on en perd des gens. Denis Martin Chabot.
Denis Martin Chabot qui est avec nous.
Je suis arrivé à un âge où, oh my God, j'en perds là, des gens de ma génération, de mon âge. Et à chaque fois, je me dis, oh my God, c'est fou, hein, mais c'est quand même une partie de moi qui part. Et c'est ma propre finalité aussi qui me revient en pleine face. Alors, c'est pas une chose égoïste, c'est une chose dans laquelle on réfléchit. Puis, je vais juste revenir rapidement sur les fantômes. Moi, je ne crois pas aux fantômes comme on les voit, mais je crois que les fantômes, ils nous habitent, c'est nos souvenirs. Oui. C'est notre perception des choses, de quelqu'un, de souvenir.
Absolument. Oui. Je suis tout à fait d'accord. C'est très juste. Hein? On arrive à un âge aussi où on voit des gens partir un peu plus autour de nous. Ben, je ne sais pas si c'est juste une question d'âge, mais c'est tout à fait logique aussi.
J'ai la quarantaine avancée, en 40 et 20.
Moi, je suis plus avancé que vous, et puis j'ai vu des gens partir autour de moi cette année. Et puis, c'est vrai que ça nous fait réfléchir aussi. Et puis, ça nous, en ce qui me concerne, moi, ça... Il y a certains départs qui m'ont apaisé face à la mort aussi. Mm-hmm. Puis il y en a d'autres qui m'ont profondément choqué aussi. Comme dit Alexis, il y a des morts quand ce sont des gens âgés et qui partent bien. C'est aussi une façon de nous apprendre à apprivoiser la mort. Et puis il y a des morts accidentelles ou des morts de maladie, des gens qui partent comme ça. Puis là, ça, c'est plus difficile à accepter aussi. Alors, on partage tous, je pense, ces grandes questions face à la mort. Et puis, alors, c'est intéressant d'amener cette question-là et puis cette thèse-là sur scène.
Alors, justement, tiens, parlons de la scène. Ça a commencé le 12 octobre. Comment s'est passée la première?
Oh ben
bien, Alexis, bien. Comment t'as trouvé ça, toi?
Moi, j'étais nerveux, mais pas au point d'être malade, là, dans le sens que j'ai déjà vécu des premières où j'étais vraiment pas bien dans ma peau, là.
D'accord.
Parce que le stress était trop fort. Là, c'était relativement gérable. Et puis, mais en même temps, moi, je suis sur scène, je suis comme le poisson dans le bocal, j'ai beaucoup de difficultés à porter un jugement. Mon appréciation est tellement partielle, teintée. Alors, mais ceci dit, je dirais que ça s'est bien passé. Puis on est content. Moi, je dirais qu'on est Daniel et moi, on est content du produit. C'est le projet qu'on voulait faire. Et puis, je pense qu'on est content beaucoup. Si je peux parler pour Daniel aussi, je pense qu'on a fait un spectacle différent. C'est-à-dire que c'est un peu dans notre mandat aussi de pas répéter les formules, de pas faire le même spectacle, de pas. Et là, je pense qu'on a fait quelque chose de très qui tranche beaucoup sur les autres entreprises qu'on a fait depuis maintenant près de 20 ans.
Ah oui. C'est déjà une grande difficulté d'aborder la narration comme ça à ce point-là, de partir dans un monologue intérieur avec. Avec soi-même, hein. Au fond, c'est Alexis face à lui-même et face à ses souvenirs et à tous ces fantômes qui le hantent. Alors ça, c'est une expérience qu'on n'avait pas fait encore, aborder la narration comme ça. Et puis, donc, c'est assez expérimental pour nous. Puis moi, je peux témoigner pour la première. J'ai trouvé que ça s'est bien passé. C'est toujours la même chose. Comme metteur en scène, ben on arrive à la première, puis rendu à la première, ben on dirait que là, il n'y a plus rien qui nous appartient, puis on devient spectateur, et puis on peut plus rien faire.
Non.
Alors, il y a un sentiment, une grande nervosité aussi, de dire, oh mon Dieu, peu importe ce qui arrive, ça y est, ça m'appartient plus. Mm. Maintenant, c'est à Alexis, c'est au concepteur, c'est au rôle de la régisseuse aussi, qui a un rôle très important, parce qu'elle communique, elle travaille hein, continuellement avec Alexis pendant le spectacle.
Oui.
Alors, on devient spectateur de ce qu'on avait fait. C'est toujours particulier, mais j'étais très heureux, j'étais très content, puis très fier de mon camarade aussi. Je le trouve très bon.
Ça s'est bien passé. Alors,
merci.
Je suis très content de cette aventure.
Et les réactions, vous avez eu des retours? Des gens dans la salle, oui. Ils ont été surpris parce que tout le monde. Je veux bien que on voit tous un petit peu la mort de peut-être de la même façon, mais quand même on le reçoit de façon différente ce projet-là. Donc il y a peut-être des gens qui ont été plus perturbés que d'autres. Enfin, quand je dis perturbés, plus touchés peut-être, plus.
Oui, sans doute, oui, c'est sûr que les personnes réagissent exactement de la même façon. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que ce type de spectacle-là, qui a un aspect un peu méditatif, les gens partent aussi dans leur imaginaire, dans leurs souvenirs, des fois reviennent, repartent, et puis on savait que ça ferait ça aussi. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Il y a des gens qui disent, ah, mais ça m'a permis, moi, de raviver des souvenirs. Puis à un moment donné, je te rejoignais dans les tiens, puis des fois, je partais dans les miens. Puis, ce type d'interaction-là était très intéressante aussi, on capture pas l'attention du spectateur, on le laisse entrer à loisir dans ce qu'on lui offre. Ça, je trouve ça intéressant. Alors, je pense que les réactions vont être très diversifiées, je pense.
Eh bien, alors, on continue puisque ça joue jusqu'au 2 novembre, c'est
6
ça?
Novembre.
6 novembre. 6, pas 2, 6, pardon, 6. Alors, est-ce qu'on va vous voir sur scène tous les deux? Un peu plus tard?
Oui, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas été sur les planches ensemble, puis ça va être assez formidable. Donc, dans notre prochain spectacle au NTE, une conjuration au mois de février. Alors, on va être tous les deux sur scène, on va se retrouver sur scène.
Ça va être un beau grand moment pour chacun d'entre vous, en même temps, travailler ensemble, continuer dans le travail et l'amitié, puis être de nouveau sur scène, c'est bien aussi.
Ouais.
Ça va.
C'était.
Eh ben écoutez, alors je vous dis le mot de Cambronne. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour tout. C'est vraiment intéressant. Puis j'attends avec impatience la suite de ce que vous saurez nous offrir. Donc, merci Alexis, merci Daniel d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Et bonne continuation. Merci. Au revoir.
Au revoir. Allez, au revoir.
Alors, on va se quitter avec une chanson de Mika qui nous emmène dans un autre monde qui s'appelle Grace Kelly. Alors, allons-y.
I want to talk to you.
The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.
Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? Yeah, I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Grace Kelly, but all the looks were too sad. I tried a little Freddy. I've got an entity mind. I could be brown, I could be blue, I could be violet,
I could be red, I could be black, I could be anything you like.
Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you walk out the door? So I tried a little Freddy. I've got an answer to me.
J'adore le petit
j'aime bien ça, la fin de Mika.
Alors, bah écoutez, on arrive à la fin de cette émission. Donc, comme d'habitude, avant de vous dire au revoir, bah, je vous signale que vous pouvez toujours m'écrire, si vous le voulez. Oui. Donc, mon adresse mail, c'est farah@gmail.com. Donc, donnez-moi des nouvelles. Dites-moi si vous aimez l'émission, si vous ne l'aimez pas, s'il y aurait des trucs
des
à changer.
Des propositions galantes, des parce propositions... que tu es encore célibataire, je crois.
Ben, pas ça, mais si vous voulez entendre des chansons ou quelque chose,
ben oui,
voilà, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous répondre. Denis Martin, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Alexis et à Daniel aussi, d'avoir Alexis Martin et Daniel Brière. Toi, en ce qui te concerne, il y a un livre qui arrive bientôt.
Oui, alors j'ai un nouveau livre
qui va sortir.
L'écrivain
Denis Martin
Chabot
arrive.
Oui, là c'est l'eau, je vais mettre mon autre chapeau. Alors je sors un nouveau roman qui est au mois de novembre. Je n'ai pas la date exacte encore, aux éditions Crescendo là, du groupe Marcel Broquet. Ça s'appelle ça commence bien. Métro Berry-UQAM. Et vous savez, j'ai une fascination avec les stations de métro, n'est-ce pas? Alors, celle-ci explose dans ce roman. Et puis, c'est un roman d'anticipation qui n'a aucun lien avec la communauté LGBTQIA+.
D'accord. Alors, mais Métro Berri UQAM, tu l'avais déjà écrit dessus, non?
Non, j'avais, j'avais Métro Baudry.
Métro Baudry, c'est ça, oui. C'est ça. Je savais que c'était une station de métro, mais je
confondais. Et puis, je peux vous parler de nos stations de radio, tu me permets. Je suis 102,3 ce soir à Montréal, oui. À l'émission qui s'appelle Fraîchement Jeudi, qu'on peut aussi écouter à radiocentreville.org et éventuellement... .com. Et c'est aussi sur YouTube, éventuellement, on pourra l'écouter là.
Voilà. Ben, écoute, il n'y a pas de problème avec
une
ça.
Une émission où je veux que tu viennes co-animer avec moi bientôt, quand on sera de retour en studio.
Bientôt. Merci beaucoup, Denis Martin, d'avoir été avec
nous. Mon plaisir.
Et puis, on dit merci à Nicolas Zwartman, parce que hier, j'ai juste dit « Merci, Nicolas, t'as été bon », et j'ai oublié son nom de famille. Donc, Nicolas Zwartman, qui est notre technicien, qui me trouve les musiques, a toujours le sourire. Et,
Je pense qu'en hollandais, Zwartman, ça veut dire intelligent, smartman.
Oh, ben alors, dis donc, alors là, tu vas dormir en milieu ce soir, Nicolas. Je ne sais pas si on te l'avait déjà dit, mais merci à vous toutes et à vous tous qui nous suivez. Puis on se donne rendez-vous demain, parce que demain, encore une belle aventure. Non, je ne vous dis pas les invités de demain. Vous verrez, c'est surprise, vous avez qu'à être là à 5h comme d'habitude. Entre 16h, entre 16 et 17, l'habitude. Merci à tous, au revoir, bonne soirée.